Maintenant, je vais vous présenter le conférencier de ce soir, Guy Chemla, géographe. Il est professeur de l'aménagement et d'urbanisme à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Il est chercheur à l'Institut de géographie. Pour son parcours, il a une thèse de doctorat de troisième cycle sur l'aménagement du parc de la Villette. De 1989 à 1992, il a été maître de conférences à l'Université de Picardie. En 1999, il a une habilitation à diriger les recherches sur les marchés d'intérêt national. Et depuis 2000, il est professeur à l'Université de Paris 4 à la Sorbonne. Pour ses spécialités, les travaux de Guy Chemla portent notamment sur l'agglomération parisienne, dont il est un des spécialistes. Il a notamment étudié les marchés parisiens, Halle, Villette, Rungis, et la géographie de l'alimentation à Paris. Plus généralement, ses travaux portent sur l'aménagement commercial, l'aménagement touristique ou encore le développement local. Il mène actuellement 3 missions de recherche à l'étranger, au Mexique, au Maroc et en Inde. Pour ses publications, Guy Chemla a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Il a publié aussi des ouvrages, parmi lesquels « Les ventres de Paris, les Halles, la Villette et Rungis »,« L'histoire du plus grand marché du monde » aux éditions Glénat 1994, Statistiques appliquées à la géographie, Nathan Université, collection Fac Géographie 1995, et apparaître en 2003-2004, l'agglomération centrale parisienne, éditeur Mairie de Paris. Je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public. Merci.
Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup. Donc, les ventres de Paris, plus exactement, géographie d'alimentation à Paris. Il y a, vous l'imaginez bien, de multiples façons d'aborder ce très vaste et passionnant sujet qu'est l'alimentation à Paris, que ce soit à travers les produits alimentaires, les restaurants, la gastronomie. C'est par le biais de l'approvisionnement, cette fois-ci, que nous nous proposons de le faire, car ils ont été d'abord trop souvent négligés, et d'autre part, c'est parce que c'est par eux que se fait la mise en œuvre, je dirais, de tout ce festin parisien, et la mise en œuvre à la disposition de la population. Paris, écrivait Sébastien Mercier, est une ville où l'on consomme dans un jour ce que d'autres villes consomment en une année. Et effectivement, à lire l'ensemble des relevés de d'octroi, les écrits sur l'approvisionnement de Paris, on est véritablement impressionné par les quantités de nourriture qui très tôt rentrent dans Paris. Elles sont d'ailleurs dans leur presque totalité consommées entièrement sur place. Et d'ailleurs, pour avoir véritablement la mesure de ce que l'on mange à Paris, il faut y ajouter l'importante production des champs, des ortillons, des potagers, puisqu'il existe encore, vers le milieu du XIXe siècle, 1400 hectares de terres cultivées avec un troupeau extrêmement important encore. Il va de soi que l'augmentation continue de la population parisienne, qui est passée grosso modo de 450 000 habitants au milieu du XVIIe siècle à 750 000, 800 000 au XIXe siècle, n'a pas manqué de se répercuter sur les volumes considérables qui entraient dans Paris. Toutefois, s'il est vrai que Paris a toujours été un marché abondant et protégé, il n'en a pas moins connu un certain nombre de périodes difficiles, noires même, peu nombreuses par rapport au reste des villes françaises et de la période, mais un certain nombre de périodes quand même relativement difficiles. Sans vouloir remonter trop avant, rappelons au XIVe siècle les terribles hivers de la fin du règne de Charles VI, aux environs de 1392, quand il va commencer à basculer un petit peu dans la folie. Autre période pendant la Ligue, notamment pendant le siège de Henri de Navarre aux environ de 1590, où certaines chroniques racontent que pour faire leur pain, les Parisiens ont fabriqué de la farine avec les ossements du cimetière des Innocents. D'autres chroniques encore plus horribles, décrites par Pierre de l'Étoile, montrent des femmes avec le bébé mort dans les bras en train de saler leur bébé pour le manger. Donc vous voyez des périodes extrêmement sombres, noires. Il y en a eu d'autres au XVIIIe siècle, des périodes de disette récurrentes, notamment l'hiver 1709. L'hiver 1709 a été marqué par exemple par le fait que les femmes de Paris, n'arrivant pas à trouver de la nourriture, sont parties déjà vers Versailles et elles ont été arrêtées au pont de Sèvres. L'hiver suivant, il y en a eu une petite dizaine dans le siècle, mais la grosse pénurie en 1789 a fait que ces mêmes femmes sont reparties vers Versailles et cette fois, elles ont pu atteindre le château avec les conséquences que vous connaissez. Toutefois, pendant toutes ces périodes que je vais vous présenter aujourd'hui, la nourriture n'était pas seulement rare et chère en raison des caprices météorologiques. Au contraire, une multitude de facteurs se combinaient pour justement rendre les produits rares et chers. Il y avait d'abord les pertes liées aux conditions de stockage, au pourrissement, aux parasites. Il y avait toute la flambée des prix liée à la spéculation. Il y avait la multiplication du nombre de sinécures honorifiques, et notamment ça a été une des caractéristiques de Louis XIV, qui a créé tout un tas d'offices sur les halles et marchés parisiens. Par exemple, celui qui embrochait les volailles du roi, celui qui mesurait les poissons du roi. Donc vous voyez toute une série de sinécures qui finalement ont entraîné une augmentation des prix. Il y a eu également la multiplication des taxes qui frappaient tous les produits alimentaires. Enfin, la pénurie a été également longtemps accentuée par le fait d'une circulation très limitée, voire rare même, des différentes denrées. La population, par crainte de manquer, empêchait le départ des produits de la campagne. Mais alors, il y a une exception, si vous voulez, caractéristique, il y en a d'autres, mais une qui est particulièrement caractéristique, c'est alors que le blé et la viande avaient énormément de difficultés à arriver à Paris, tout avait été fait au contraire pour faciliter l'arrivée du poisson de mer dans Paris. Donc, le poisson de mer, aliment relativement peu consommé, très taxé comme le reste des produits alimentaires, bénéficiait d'une libre circulation qui avait été imposée par l'Église aux environs 1214. Pour quelle raison? Eh bien, parce que d'après le calendrier officiel de l'Église, il existait 158 jours où les fidèles devaient s'abstenir de consommer de la viande. 158 jours. Et donc, à partir de là, le poisson aliment maigre devait pouvoir circuler très vite, être très rapidement sur les marchés pour que l'ensemble des Parisiens puissent les consommer. Et donc, cette libre circulation, si vous voulez, qui n'entrera dans les mœurs véritablement qu'au XIXe siècle, était pourtant réclamée très tôt, dès le XVIIIe siècle, elle était réclamée par un certain nombre de voix rares, comme le duc de Choiseul, comme également Turgot, contrôleur général des finances de Louis XVI. Quoi qu'il en soit, ces périodes très sombres, à Paris, elles ont été moins pénibles, si vous voulez, que dans le reste du pays. Pourquoi? Eh bien, pour la bonne raison que Paris a toujours été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un marché relativement protégé, privilégié par rapport à la province. Le ravitaillement de la ville était paix sociale oblige. Eh bien, une des préoccupations majeures des responsables et des gouvernants, dans la mesure où il fallait éviter le moindre risque pour ne pas mécontenter la population, il fallait essayer de maintenir à un prix raisonnable les différentes denrées alimentaires. Et figurez-vous que c'est ainsi que toute une série de périmètres de protection ont été établis et avaient été instaurés aux différentes époques, suivant la nature des produits, pour éviter et pour protéger ce marché parisien. Par exemple, toute transaction, suivant les produits, on en parlera un petit peu plus tard, toute transaction était interdite dans un rayon de 7 à 20 lieues de la capitale, la lieue faisant à l'époque environ 4 km, donc vous voyez entre une trentaine et 80 km. Ces périmètres de protection étaient complétés par un certain nombre de mesures qui avaient pour but d'éviter la moindre perte de substances, de produits, les moindres risques de pénurie. Et par exemple, on ne pouvait non seulement commercialiser du bétail, mais on ne pouvait pas arrêter le bétail mis en chemin, c'était l'expression employée, sur Paris. On ne pouvait pas l'exposer, parce qu'il y avait toujours un risque de vente. De la même façon, je vous ai parlé du poisson tout à l'heure, eh ben, les chasse-marées, les marailleurs, n'avaient pas le droit de s'arrêter, sauf pour changer de chevaux. Autre élément, le grain, pour vous montrer l'importance du grain, interdiction était faite simplement de délier les sacs de grain, parce que qui dit quand on détache un sac de grain, il y a toujours le risque d'avoir une commercialisation et une vente. Donc vous voyez toute une série de protections pour garantir un approvisionnement le plus régulier possible à la population parisienne. Outre la quantité, le marché parisien a toujours présenté une très grande variété de produits propres à satisfaire une clientèle qui était dans l'ensemble plus aisée et surtout réputée beaucoup plus exigeante que celle de province. Rappelons, c'est dans son acception gourmande avec François Villon qu'il n'est bon bec que de Paris. Et donc, à partir de là, il y a tout un afflux de marchandises qui arrivent pour satisfaire la demande de la population parisienne. Ainsi, par exemple, pour vous montrer cette exigence, dès la fin de l'Ancien Régime, les bourgeois de Paris ne veulent plus manger que du pain blanc. Ils ont également un régime alimentaire qui est beaucoup plus diversifié et plus riche que les gens de province, puisque les chroniques nous disent que vers Lavoisier, 1760-1770, le Parisien dépense à l'époque près de deux fois plus d'argent pour acheter de la viande que de se procurer du pain. Alors bien sûr, le but là n'est pas de vous présenter des rations alimentaires, mais c'est de vous montrer un petit peu dans quel environnement on se situait. Cette généralisation est abusive et il faudrait une autre conférence sur l'alimentation, que malheureusement là je n'ai pas le temps de développer. Mais cette généralisation est abusive pour la bonne raison que dans la plupart des familles populaires, la consommation quotidienne est soit très proche de la consommation paysanne, c'est-à-dire à base de soupe, essentiellement avec des légumes. Et finalement, le pain est l'élément de base. Et encore, on n'en consomme pas énormément, aux environs de 400 grammes par personne. Donc finalement, c'est une soupe, c'est quelques légumes, c'est parfois un petit morceau de fromage. La viande et le poisson étaient le plus souvent exclus de leur alimentation. Alors d'où venaient ces différents produits? Et je vous propose de jeter un œil à cette carte simplifiée des aires d'approvisionnement de Paris. Elle est extrêmement intéressante à plusieurs titres. Premièrement, vous le voyez, elle met en évidence le rôle fondamental des régions situées au cœur du bassin parisien, et principalement de la Beauce et de la Brie, capitale et grenier à blé de la capitale. Alors, comment peut-on expliquer ça? Eh bien, il y a plusieurs facteurs, si vous voulez. Il y a d'abord la grande aptitude agricole de ces terres qui entourent Paris. Il y a une deuxième raison que vous connaissez maintenant, c'est la difficulté de circulation. Et une troisième, qui sont les obligations dont j'ai parlé, les obligations réglementaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Et à partir de là, ça induit un certain nombre de comportements chez les agriculteurs environnant la ville de Paris, qui ont très tôt diversifié leur production de façon à pouvoir couvrir et satisfaire localement l'ensemble des besoins des Parisiens. Alors, que ce soit en matière d'élevage, que ce soit en matière de produits laitiers, là, il y a un certain nombre de spécificités dans lesquelles je ne rentrerai pas. Mais de plus, il faut imaginer que Paris était entouré de façon quasi continue par une ceinture verte, fruitière et maraîchère, avec des productions extrêmement variées et réputées. Je vous en citerai que quelques-unes. Les asperges d'Argenteuil, les foies de Clamart, les pêches de Montreuil, avec ses murs de pêche célèbres. Donc vous voyez toute une série de produits de qualité, produits spécifiquement parce qu'il y avait un marché solvable et dynamique au cœur de Paris. Alors, en ce qui concerne les autres produits, si vous voulez, eh bien, compte tenu de la médiocrité du réseau et des possibilités limitées de circulation, elles venaient pour la plupart des régions environnantes, vous pouvez le voir sur la carte, notamment du nord et de l'ouest principalement, et il y avait donc de véritables routes alimentaires qui faisaient la liaison entre ces provinces d'immédiate périphérie, je dirais, et Paris. Il y avait par exemple la route alimentaire des ports de la Manche vers Paris pour le poisson. Il y avait les routes alimentaires de la Normandie, dont vous voyez l'importance par la taille proportionnelle du bétail, donc l'importance de la Normandie dans l'approvisionnement de Paris en viande bovine. Alors, on comprend mieux également, à la lecture de cette carte, l'importance des rivières dans le transport des marchandises. La Seine, l'Yonne, la Marne, l'Oise, bien sûr la Loire, par le canal de Briare et le canal d'Orléans, qui ne figurent pas ici sur la carte, permettaient de faciliter les communications que l'on a vues être extrêmement difficiles par route, donc de faciliter les communications, et notamment pour transporter les pondéreux, c'est-à-dire transporter essentiellement le métal, un peu de grain, mais également du matériau, des matériaux de construction, etc. Et donc, à partir de là, vous voyez, on comprend également mieux l'importance que les édiles parisiens ont accordée à certains travaux d'aménagement, comme la construction de berges, la création des ports à Paris, port au vin, le port au bled, aux huîtres, qui était à l'actuel, au niveau du Louvre actuel. Donc, vous voyez, il y a véritablement une dynamique très forte de l'activité économique qui passe par les fleuves et les canaux. Néanmoins, en dépit de ces difficultés de circulation atténuées par la circulation fluviale, l'attraction du marché réussit quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par sa solvabilité et par sa très forte demande, à avoir une influence à l'extrême périphérie du bassin parisien, arrivant à flirter au niveau des Ardennes, au niveau du Berry, au niveau du Nivernais, du Limousin, vous le voyez complètement à l'extrême sud. Il y avait également des produits nobles qui arrivaient, et même en grande quantité, puisque la demande, là encore, était forte et solvable. On avait des huîtres qui arrivaient de Marennes, par exemple du foie gras qui venait d'Alsace, qui venait de Gascogne, on avait des poulardes de Bresse déjà qui arrivaient, et de la charcuterie, on était de gros consommateurs de charcuterie, qui arrivaient essentiellement d'Allemagne et d'Italie. Alors, en ce qui concerne, et je ne pouvais vous l'imaginer passer sous silence le vin, vous voulez bien mettre la première carte, s'il vous plaît, l'approvisionnement en vin était lui aussi très soigneusement protégé. Là encore, pour limiter, et vous le voyez sur la carte, la tache jaune que vous voyez au centre, donc matérialise l'espace protégé par un arrêt du Parlement du 14 août 1577 qui interdisait aux marchands de vin d'acheter du vin directement dans Paris pour le vendre à l'extérieur. Il y avait une sorte de protection, si vous voulez, de la consommation et de la production locale. Et d'ailleurs, cette production locale était déjà très loin de suffire aux besoins. Dès le XVIe siècle, on estime que les trois quarts du vin qui est consommé à Paris vient de l'extérieur de la région. Et on estime au XVIIIe siècle, il y a eu un certain nombre de thèses qui ont été faites là-dessus, on estime au XVIIIe siècle que plus de la moitié des vins consommés à Paris, 60% exactement, venaient de la région d'Orléans, du Blaisois-Orléans. À peu près 12 à 15% venaient de Champagne et de Basse-Bourgogne, c'est-à-dire la région du Beaujolais, du Mâconnais. Et d'ailleurs, ce sont ces vins qui, progressivement, vont devenir majoritaires à Paris dès la Révolution. On boira essentiellement du Beaujolais, vin de médiocre qualité, surtout à l'époque. Je ne voulais pas le dire, mais bon, ça m'a échappé, excusez-moi. Parlons des vins de qualité, si vous voulez. Parlons des vins de qualité. Les vins de qualité sont, à part dans les grandes familles, si vous voulez, les vins de qualité qui ont été étudiés comment ? Elles ont été étudiées par les inventaires après décès. L'inventaire après décès prenait donc la liste des produits que l'on trouvait dans les maisons et dans les caves, et on s'est rendu compte que les vins de qualité représentaient 2,5% à peine de la consommation, et c'était principalement des grands Bourgognes. Les Bordeaux, les Côtes-du-Rhône partaient vers, et les vins étrangers, les vins du Rhin, les Tokais de Hongrie, etc., partaient plutôt vers l'Angleterre, vers la Hollande, etc. Vous voulez bien montrer la deuxième carte, s'il vous plaît, en ce qui concerne les vins. Et vous voyez combien le paysage agraire des environs de Paris était alors fortement dominé par la vigne. Donc, et donc extrêmement différent, bien sûr, de ce que l'on peut voir aujourd'hui. Ça s'explique, là encore, par y a plusieurs facteurs d'explication. Premièrement, c'est la très forte demande en vin, qui est donc le reflet de la carte de la répartition du vignoble et le reflet, si vous voulez, de la consommation. Il y a un mémoire, je pourrais vous en citer plusieurs, mais il y a un mémoire de 1637, qui essaye d'évaluer les quantités mangées et bues par les différents Parisiens et qui nous dit que les 413 000 Parisiens de l'époque consommaient à peu près 240 000 muits de vin, c'est-à-dire 650 000 hectolitres, c'est-à-dire 150 litres par personne. Ça tenait compte, pour faire le calcul, de la population d'enfants. Donc, en réalité, et en même temps, il y avait une disproportion également entre consommation des femmes et consommation des hommes. Donc, vous voyez, ça nous donne une idée, 155 litres de vin, mais bon, il faut encore le pondérer avec la répartition entre population adulte, population enfant, population femme et population d'hommes. Donc, cette omniprésence de la vigne, elle est liée d'abord à la très forte consommation. Elle est liée aussi à deux phénomènes tout à fait particuliers. D'abord, une crise conjoncturelle. Cette crise conjoncturelle résulte de, bah, je vous en ai parlé, de l'hiver 1709, qui a fait que l'ensemble du vignoble, ou une grande partie du vignoble, a gelé. Donc les pertes que l'on a enregistrées, il fallait les compenser, et donc on a planté beaucoup de vignes. Deuxième élément, on a planté des cépages qui étaient beaucoup plus productifs, si vous voulez. Donc vous voyez, premièrement, une réaction à un phénomène, à une crise conjoncturelle. Il y a un deuxième élément tout à fait intéressant, caractéristique, c'est un changement structurel de la consommation. C'est-à-dire qu'en ce début du XVIIIe siècle, on a vu se multiplier les guinguettes dans les faubourgs. Or, les guinguettes vendaient du vin moins cher parce qu'il était exempt des droits. Et donc, à partir de là, bien évidemment, on en consommait davantage. Donc, la demande était plus forte. Et vous imaginez que c'était tout à fait intéressant de planter de la vigne. Alors, pour répondre à cette demande considérable, les vignerons, je vous l'ai dit, n'ont pas hésité à prendre des cépages à haut rendement. Mais ils vont surtout développer la viticulture partout sur les terres basses de la vallée de la Seine et des affluents, sur des terres donc très, très grasses, très riches. Or, vous savez que le vin doit souffrir pour être bon. Et donc, à partir de là, on a là véritablement un changement d'importance dans la viticulture française, alors qu'au XVIIe siècle, les viticulteurs parisiens, on peut dire, avaient plutôt développé une viticulture de qualité sur les coteaux de la Seine, des affluents, sur les buttes qui piquettent le bassin parisien, sur la région de Montmorency, Cormeilles, le Mont-Valérien, Montmartre, par exemple. Donc, à partir de là, on avait une qualité au niveau du vin. Mais la situation a complètement changé au XVIIIe siècle, et on va voir donc s'opposer sur le marché parisien à la fois des gros vins courants produits en plaine, dans la proche banlieue, comme à Argenteuil, par exemple, et des vins de qualité. Les vins de qualité, ce sont les vignobles anciens. On nous dit dans les ouvrages que les bourgeois parisiens retiennent à l'avance, donc pour montrer leur attachement. Et c'est par exemple Chanteloup, aujourd'hui Chanteloup-les-Vignes, Andrézy, à côté de Poissy. Donc vous voyez, on a donc toute une tradition de viticulture de qualité, mais qui va être battue un petit peu en brèche au XVIIIe siècle avec ce développement du vignoble de pleine et de médiocre qualité. Alors, vous le voyez, avant de devenir sous l'Empire un centre industriel et commercial, Paris fut de tout temps un grand marché de consommation. Ce n'est finalement qu'au cours de la première moitié du XIXe siècle qu'avec l'avènement de la libre circulation, l'amélioration des routes, du réseau routier de façon générale, l'arrivée du chemin de fer, l'aire d'approvisionnement de la capitale va progressivement s'élargir et on va trouver de façon permanente et en abondance, cette fois-ci non plus des produits venant strictement des régions proches, mais on va trouver des produits venant de toutes les provinces françaises et beaucoup également de l'étranger, jusqu'en Angleterre d'ailleurs. Et si vous voulez, cette approvisionnement qui devient abondant et régulier ne va pas empêcher quand même le ravitaillement parisien de connaître un certain nombre d'autres heures un petit peu difficiles, mais celles-ci plus liées à des événements politiques ou une combinaison d'événements politiques et d'événements météorologiques, et ce fut notamment le cas au cours de la guerre de 1870 et du siège de Paris. Alors là, les difficultés matérielles politiques de l'époque furent amplifiées par le froid extrême, puisque la Seine, nous dit-on, gela, et que l'on a été obligé de couper tous les arbres du bois de Boulogne pour fournir du bois de chauffe. Donc vous voyez véritablement que l'on était dans une situation qui était assez catastrophique. Alors Paris, assiégé, résista plus de 4 mois. Arago nous dit qu'il n'y avait que 3 mois de produits de réserve à Paris. Et finalement, on manquait de tout, à tel point que le gouvernement de défense nationale fut contraint de prendre des mesures autoritaires de rationnement et de réquisition sur tout ce qui était susceptible d'être mangé. Ça a commencé d'abord par les bêtes à cornes, et puis ensuite on a généralisé la mesure. Et effectivement, si vous voulez, la moindre nourriture valait de l'or. Il y a eu, par exemple, entre 400 et 600% d'inflation des produits alimentaires entre septembre et décembre 1870. Et à partir de là, chacun va se mettre à commercialiser ce qu'il peut. Je vous donne ceci. À commercialiser ce qu'il peut. On raconte par exemple dans les chroniques un bijoutier de Clichy qui a présenté, il n'y avait plus de bijoux puisque personne n'en achetait, qui présentait des œufs dans sa vitrine entourés dans du coton. Vous voyez, pour autre élément, c'est que, et je vous le présente ici, c'est qu'il y a eu tout un tas de gibiers parisiens, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, et dans les chroniques, on disait que le gibier parisien n'était pas absolument désagréable. Et vous le voyez donc parce qu'on mangeait finalement du chat, du rat, du chien, du moineau même. Et permettez-moi de vous lire ce que Victor Hugo marquait dans son journal. Ce n'est même plus du cheval que nous mangeons, c'est peut-être du chien, c'est peut-être du rat. Je commence à avoir des maux d'estomac, nous mangeons de l'inconnu. Donc, vous voyez cette, finalement la situation. Et autre élément, c'est que ça a diffusé dans l'ensemble de la société. Si vous regardez les livres de cuisine de l'époque, par exemple, on voit apparaître un certain nombre de recettes qui sont tout à fait surprenantes. On voit de la soupe à l'oignon sans oignon. On voit des terrines et des ragoûts de rat. Et le rat, dont l'Académie des sciences a d'ailleurs fait l'éloge en 1870 en disant que c'était une viande très digeste et il fallait inciter la population à consommer du rat. Alors, la plupart des restaurants étaient logés également à la même enseigne, vous l'imaginez bien, et elles subissaient les pénuries de la même façon. Alors, comme les cuisinières, ils vont adapter leurs recettes et ils vont adapter également leurs cartes. Alors, on trouvait à Paris du navarin de chat aux racines, des côtelettes de chien pané, du salmi de rat, ou bien des plats plus exotiques comme le pâté d'éléphant. Alors là, c'était le pâté fourre-tout, où on mettait tout ce qu'on voulait, c'était du pâté d'éléphant. Et, si vous voulez, exotique, là je plaisante sur l'exotique, mais l'exotique, les animaux l'étaient vraiment parfois. Pourquoi ? Eh bien, parce que faute de pouvoir les nourrir, on a consommé les animaux du jardin d'acclimatation, et notamment le chameau. On a consommé les éléphants, du jardin des plantes, et notamment, il y avait un célèbre Pollux qui était très apprécié, qui a été vendu à prix d'or à la boucherie anglaise, qui était boulevard Haussmann, si mes souvenirs sont exacts. C'est encore, d'ailleurs, et je vous demande de bien vouloir mettre ça, mais il faudra changer l'opacité. C'est encore donc le jardin des plantes qui va fournir quelques-uns de ses locataires pour servir de matière première au dîner de Noël de la Tour d'Argent le 25 décembre 1870. Et je vous laisse le découvrir sur ce transparent. Alors, vous voyez, il y a donc là matière à réflexion. Bon, il y eut bien sûr d'autres moments difficiles pour les Parisiens. Au cours des siècles derniers, mais qui n'ont véritablement jamais eu l'ampleur des périodes dont je vous parle actuellement. Alors, si vous me permettez, on ne s'y attardera pas. Alors, en dépit de ces périodes difficiles, c'est, nous l'avons vu, je voudrais bien préciser que le propos ne soit pas déformé, je parle d'approvisionnement, je ne vois pas la ration alimentaire, parce que bien évidemment, on recouvrerait des réalités extrêmement différentes. Je parle donc de l'approvisionnement. Donc finalement, au niveau de l'approvisionnement, c'est l'abondance qui, dans l'ensemble, caractérise l'approvisionnement de la capitale, et c'est bien le moins. Pour la bonne raison que Grimaud de la Reynière, en 1803, écrivait « Paris est incontestablement le lieu de l'univers où l'on fait la meilleure chair ». Alors, il fallait bien pouvoir tenir ce rang de capitale mondiale de la gastronomie. Et donc, il fallait, que cette fonction d'approvisionnement soit structurée et puisse s'appuyer sur des équipements puissants et bien organisés. Et c'est ainsi que, donc, successivement, trois marchés de gros, trois ventres, pour reprendre l'expression d'Émile Zola, les Halles centrales, la Villette et Rungis, vont jusqu'à nos jours se relayer, pour assurer l'approvisionnement de la capitale. Alors, historiquement, et de par sa notoriété, c'est bien évidemment par les Halles centrales qu'il nous faut commencer. Je vous ai préparé un petit montage, je ne vais pas voir dans le détail, mais vous pourrez suivre les évolutions du quartier. Alors, voyons donc ce marché des Halles centrales. Le premier marché, qu'on appelait le marché Palu, se tenait dans la cité. Et puis, très vite, il va être déplacé sur la place de Grève, à l'emplacement actuel de l'hôtel de ville de Paris, si vous voulez. Cependant, l'histoire des Halles, véritablement, commence en 1137, lorsque Louis VI le Gros, fit déplacer l'ensemble des marchés parisiens, ceux qui restaient dans la cité et ceux qui étaient installés dans la place de Grève. Il va donc tous rejeter à l'extérieur de la ville, aux champeaux. Les champeaux, c'était des terrains agricoles, un peu comme les ortillonnages d'Amiens, si vous voulez. C'est-à-dire donc des terrains conquis sur le marais. Et d'ailleurs, la toponymie conserve un certain nombre encore aujourd'hui de ses souvenirs, la rue des Petits Champs, la rue Croix des Petits Champs, etc. Et donc, bien qu'éloigné de la ville, vous voyez, rejeté à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les Romains déjà avaient choisi cet endroit-là pour entreposer de la nourriture. Je ferme la parenthèse. Mais c'était un lieu extrêmement intéressant et stratégique. Pourquoi stratégique ? Parce qu'il était situé au carrefour de plusieurs routes, et notamment au carrefour des provinces du Nord et de la Manche, et on a vu le rôle des provinces du Nord et de la Manche, que ce soit pour le poisson ou que ce soit pour la viande de bovine. Alors donc, bien desservie en plus par la rue Saint-Denis, la renommée, la prospérité du lieu ne va pas cesser de croître, et notamment grâce au transfert de la foire Saint-Lazare, Saint-Ladre, par Philippe Auguste, qui va renforcer cette intensité commerciale, qui va attirer donc un nombre croissant de marchands, qui va attirer également des maraîchers qui pourront donc écouler directement leur production sur le marché. Alors, très vite, si vous voulez, la place manqua, il va falloir assécher encore le marais circulaire qui était à la périphérie, et finalement on va voir se développer le marché, mais de façon complètement anarchique. Et c'est pour ça que Philippe Auguste va faire construire, vous le voyez dans le premier en haut à gauche, va faire construire deux halles qui étaient là uniquement pour les marchandises délicates, puisqu'elles étaient uniquement pour les tisserands et les drapiers. Pardon. Et donc, finalement, vous voyez l'ensemble de l'activité se dérouler en plein air. Sous Philippe Auguste, toujours, il y a eu un autre élément extrêmement important, c'est que le marché qui était à l'extérieur de la ville va être, du fait de la croissance urbaine, intégré à l'intérieur de Paris, et donc va passer de marché des Champeaux au marché des Halles, quartier des Halles et marché des Halles. D'ailleurs, il était bien protégé, vous le voyez, derrière l'enceinte de Philippe Auguste, et il était lui-même clos. Il a été clos pour et fermé la nuit, d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de biens dedans, mais surtout pour le protéger du voisinage douteux du cimetière des Innocents, où il se passait beaucoup de choses. Et donc, à partir de là, on a préféré l'isoler. Donc, c'est comme ça que le marché des Champeaux est devenu véritablement le centre permanent du commerce de gros et de détail de Paris, et va commencer à réguler l'approvisionnement parisien. Alors, chaque souverain, bien évidemment, va entraîner un certain nombre de constructions, de retouches de ce quartier. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je voudrais simplement vous rappeler l'édification de l'église, la superbe église Saint-Eustache. Pourquoi ? Parce qu'elle est en plein dans notre propos. D'abord, elle va être l'église des gens de la Halle, c'est comme ça qu'on l'appelait. Mais surtout, si vous regardez la richesse, à la fois la richesse et la modernité du plan de Saint-Eustache. Alors, malgré la notoriété du lieu, malgré l'efficacité commerciale de ce quartier, il y avait un certain nombre de handicaps. Ces handicaps, c'était d'abord des coûts exorbitants d'installation, de location, des taxes très élevées, pour la bonne raison que les différents se payaient ou alimenter le trésor royal par ce biais-là. Et à partir de là, il y a un moment où cette installation sur le marché des Halles va devenir quand même relativement difficile et la situation va devenir un peu répulsive, au point que les commerçants vont commencer à ne plus aller s'installer aux Halles, mais à diffuser dans l'ensemble des rues de la ville, créant des boutiques un petit peu à gauche à droite. Et à partir de là, si vous voulez, il fallait une remise en ordre. Et cette remise en ordre, c'est François Ier qu'il a effectué en 1543. Il a rasé l'ensemble des bâtiments qui existaient et il a conçu un plan ordonné que vous voyez que l'on voit. Donc, il a conçu un plan ordonné. Ce plan ordonné, avec donc des rues perpendiculaires, etc., ce plan qui était extrêmement ordonné était bâti avec, pardon, était s'appuyait sur des halles identiques et surtout était entouré de ce que l'on appelle les piliers des halles qui devaient ressembler, qui ressemblaient d'ailleurs, à ce qu'est un peu la rue de Rivoli, c'est-à-dire des arcades dans lesquelles il y avait à la fois la boutique et l'habitation et on vendait sur le carreau, c'est-à-dire directement à même le sol partout. Et ce réaménagement complet, donc, par François Ier, va redonner du lustre à ce marché, et il va redevenir le marché qu'il était, donc un marché véritablement de gros et de détail. Mais, si vous voulez, ce marché de gros et de détail devenait essentiellement un marché alimentaire, et restait de façon résiduelle, organisé en rue, un certain nombre de foires spécialisées qui faisaient le jalon avec la foire des Champeaux, dans lequel finalement on trouvait qu'il était à la fois un marché de gros alimentaire, mais également un peu un bazar, si vous voulez. Donc on a eu cette transition après le réaménagement, la réformation des halles, comme on dit, de François Ier. Alors, ce réaménagement a permis au marché des halles de pouvoir fonctionner dans des conditions satisfaisantes jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et là, les choses ont empiré compte tenu à la fois d'augmentation de la demande, de l'augmentation de la population parisienne, et finalement, on a vu une sorte de paralysie du lieu s'installer, à la fois du fait de la vétusté des constructions, du manque d'hygiène, du manque de place, des difficultés de circulation, déjà des difficultés. Alors, pour soulager tout ça, il y a eu un certain nombre de transferts. J'irai très vite parce que ce sont des jalons que l'on retrouve aujourd'hui. Il y a eu le déplacement d'une partie du marché aux fleurs au quai de la Mégisserie, où il se trouve encore, si vous voulez, c'était dans les années 1720. Il y a eu la création du marché des innocents, qui n'existait pas, en lieu et place du cimetière des innocents, qui avait été débarrassé de ses encombrants locataires aux catacombes. Et donc, à partir de là, ça a permis d'avoir un espace dans lequel le marché a pu s'étendre. Ça a permis également la construction de la halle au blé, en bois, la précédente, celle qui a brûlé. Donc, à partir de là, vous voyez, c'est des réaménagements, mais qui sont des retouches plus que des réaménagements, à tel point que quand Napoléon Ier est venu en 1810 voir un petit peu ce quartier, il a été horrifié, il a demandé un plan d'embellissement qui a été réalisé en 1811, mais si vous voulez, sa destinée politique ne lui a pas permis de mettre en œuvre cette opération. Et donc, à partir de là, il y a eu simplement quelques retouches qui ont été faites, et ces retouches ont permis une réorganisation un petit peu du quartier. Vous le voyez ici, on a la création du marché des Prouvaires qui va être spécialisé dans tout ce qui touche les produits carnés. Il va y avoir le regroupement d'activités par ici dans ce que l'on appelle le marché de la verdure, c'est tous les fruits, les légumes, etc. Donc vous voyez des petites réponses partielles qui font que finalement on n'a jamais à ce moment-là un quartier qui fonctionne véritablement. Pour vous donner simplement une idée, c'est que dans les années 1820-1840, la surface couverte des halles ne faisait, malgré toutes les constructions dont je vous ai parlé, ne faisait que 8000 m2, 8800 exactement. Et donc il devenait urgent de véritablement repenser complètement ce quartier des halles, et c'est ce que va faire le préfet Rambuteau dans les années 1845, qui va confier, une commission la mise en œuvre d'un projet de réorganisation complète du quartier pour permettre justement à l'approvisionnement de correspondre aux besoins de la population. Alors là, cette question est relativement délicate pour la bonne raison qu'il va y avoir un climat très passionnel autour de cet agrandissement et de cette reconstruction du marché. En effet, il va y avoir une interrogation majeure. Fallait-il laisser les halles sur place ou déjà les rejeter hors la ville? Je vous dis, le climat a été véritablement passionnel, mais en réalité, pourquoi ? Eh bien, parce que le débat portait en lui une interrogation beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, si vous voulez. Devait-on, c'est celle-ci, devait-on maintenir la cohésion de l'espace parisien ou mettre en place une ségrégation spatiale ? C'est ça la dimension qui était en jeu. Ségrégation spatiale, tant des habitants que des activités. Et finalement, fallait-il favoriser la séparation de ces deux espaces, de ces deux mondes, c'est-à-dire séparer les quartiers aristocratiques des quartiers prolétaires, les quartiers financiers des quartiers indigents. C'était ça l'enjeu qui était derrière la reconstruction des Halles et pas simplement la reconstruction d'un marché, si vous voulez. Maintenir les Halles au centre de Paris obéissait donc à une fonction commerciale, certes, mais c'était tout autant une interrogation sur la notion d'ordre public. Vous le savez, l'importance qu'elle occupe au XIXe siècle. Et donc, à partir de là, si vous voulez, maintenir les Halles dans cette position centrale, c'était favoriser la séparation entre ces quartiers aristocratiques et les quartiers dangereux. Je vous renvoie à Chevalier, classe ouvrière, classe, etc. Bon, donc finalement, c'est Victor Baltar et Félix Calais qui furent nommés architectes en chef des Halles. Et à partir de là, ça va être une période relativement perturbée, puisqu'ils vont commencer les travaux en 1947. En 1948, il va y avoir la Révolution. Donc à partir de là, les travaux prennent du retard. Et finalement, la véritable reconstruction commence en 1851. Baltar, entre-temps, a profité du changement de préfet pour améliorer, enfin pour modifier plutôt, pour modifier son projet. Et finalement, donc, les travaux commencent. Et en 1851, et à peine deux ans plus tard, ils sont interrompus. Ils sont interrompus à la demande de Bonaparte. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Celle du haut, s'il vous plaît. Et donc, ils sont interrompus à la demande de Bonaparte parce que le bâtiment qui était sorti de terre, ça devait être Noël, si vous voulez, était véritablement lourd, massif, à tel point que la population l'a baptisé le fort de la Halle. Le fort de la Halle dans cette optique de sécuritaire, etc. Et donc, il va être très, très rapidement démoli. Vous imaginez qu'il était aux antipodes de ce que souhaitait l'empereur, pardon. Et donc, à partir de là, Haussmann nous raconte une rencontre avec l'empereur, qui était enchanté par la gare de l'Est de Armand et qui adorait justement ces charpentes métalliques vitrées, etc. Et il voulait que les Halles ressemblent à ça, et il aurait dessiné une esquisse sur un papier que Haussmann a très soigneusement emporté, en disant voilà, ce sont des parapluies qu'il me faut, rien de plus. Et donc, à partir de là, Haussmann est reparti avec cette esquisse et, si vous voulez, a été voir Baltar, qui était son coreligionnaire et qui était en même temps son ancien camarade de Henri IV. Et donc, Baltar, malgré sa disgrâce, s'est remis, si vous voulez, au travail et à partir de là, par un stratagème, éventuellement on y reviendra dans la discussion si vous le souhaitez, par un stratagème, Haussmann a réussi à faire passer auprès de l'empereur, le projet de Baltar. Alors, ce projet de Baltar, on reviendra sur l'illustration qui est en bas, ce projet de Baltar, je vous le présente ici dans sa globalité. Vous voyez que c'est un ensemble qui fait 83 000 mètres carrés, donc plus de 10 fois ce qui existait précédemment, et qui est constitué de deux grands ensembles, un ensemble de 4 pavillons, un ensemble de 6 pavillons, les 4 pavillons étant face à Saint-Eustache. Vous le voyez, très rapidement, pour ne pas vous ennuyer avec tout ça, ces pavillons vont être construits pour les 6 premiers en 1857, ils vont être achevés, et pour les autres, comme le marché gêner les travaux, etc., en 1868. Mais j'attire votre attention tout de suite que l'ensemble de l'opération ne sera terminé qu'en 1936, parce que c'est à cette époque que sont achevés les deux petits pavillons triangulaires que vous voyez en haut. Donc vous voyez très tard, autour de la halle circulaire, vous avez ces deux pavillons latéraux triangulaires qui ne seront donc finis qu'à ce moment-là. Tous ces pavillons reposaient sur un ou deux niveaux de cave et bénéficiaient bien évidemment du luxe de l'époque, c'est-à-dire le gaz, l'eau, de façon à pouvoir permettre le nettoyage et le travail nocturne, surtout un élément très important. Et donc, grâce à tout ça, les Halles vont bénéficier véritablement d'une nouvelle jeunesse, si vous voulez. Et à partir de là, en plus, compte tenu des travaux de Haussmann autour, ils vont être accessibles très facilement de partout, et notamment depuis les barrières et depuis les gares de Paris. Alors, pour en améliorer le fonctionnement, si vous voulez, les Halles vont être confiées, ou plus exactement, elles vont être placées sous la double autorité de la préfecture de police qui va assurer les problèmes de sécurité et de la préfecture de la Seine qui vont surveiller toutes les opérations sur le plan économique. Car en réalité, le fonctionnement était extrêmement réglementé et il y avait deux espaces, si vous voulez, c'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Il y avait le monde des pavillons et le monde de l'extérieur. Le monde des pavillons, dans ce monde des pavillons, c'était l'aristocratie, c'était les mandataires. Peu nombreux, 50 dans le milieu du 19e siècle, à peu près le triple vers la fin. Et donc, véritablement, c'était l'image de marque, c'était leur réputation d'honnêteté qui attirait la population. Et puis, à l'extérieur des pavillons, dans les boutiques tout autour, il y avait une organisation extrêmement complexe avec de multiples intermédiaires, des intermédiaires officiels et des intermédiaires plus ou moins officieux, illégaux. Éventuellement, là encore, je pourrais vous en parler parce que c'est quand même un monde extrêmement intéressant. Une autre profession jouissait d'un rôle extrêmement décisif dans les Halles, ce sont toutes les personnes qui travaillaient à la manutention. Et là, vous imaginez que compte tenu de l'encombrement des rues, des trottoirs, ils jouaient un rôle vraiment crucial. Et à partir de là, il y avait entre 3000 et 12000 portefaix, il y avait des débardeurs, des coltineurs, il y avait beaucoup d'étudiants qui allaient travailler, ce qu'on appelait les renforts de clochards également, qui allaient travailler. Mais l'aristocratie, là encore, parce que c'est vraiment vécu comme ça chez les gens de cette époque, l'aristocratie, c'était les forts des Halles. Et ces forts des Halles avaient le monopole de la manutention dans la partie noble, bien évidemment, des Halles, c'est-à-dire dans les pavillons et un petit peu alentour. Et donc, c'était une profession extrêmement structurée, hiérarchisée. On ne pouvait y accéder que quand une charge se libérait, c'est-à-dire, ils avaient le droit par exemple, de porter le cercueil du roi pour l'emmener à Saint-Denis, par exemple. Donc, ils avaient le droit de porter l'épée, également. On imagine les forts de Halles comme des brutes. C'était absolument pas ça. Toutes choses égales par ailleurs, bien évidemment. Finalement, si vous voulez, c'était véritablement une profession noble. C'était cette profession qui avait autorité pour tracer le fameux carreau des Halles à la craie sur lequel on pouvait s'installer pour travailler. Donc il y a à la fois un mélange de noblesse et d'image d'Épinal, si vous voulez, avec leur grand chapeau qui était passé au blanc d'Espagne, leur tablier bleu, etc. Alors, tous ces acteurs, finalement, se retrouvaient dans le quartier des Halles à 23h, puisque le pouvant travailler de nuit grâce au gaz, le travail commençait à partir de 23h. Les premiers, ce sont les producteurs qui arrivaient d'abord à 23h, puis à 1h du matin est arrivé ensuite l'Arpajonnais. L'Arpajonnais, c'était le train qui venait du sud de Paris, qui passait par Bourg-la-Reine, et qui ensuite utilisait les voies des tramways pour arriver au plein cœur des Halles et décharger toutes les marchandises des producteurs de la région parisienne, et notamment toute l'approche terminale vers le sud. Donc, ensuite, à 3h du matin, les pavillons commençaient à s'éveiller, et à 4h du matin, c'est la clientèle qui arrivait pour être présente à l'ouverture des activités. Je vous passe très rapidement, parce que comme je l'ai passé, c'est intéressant. Vous avez là une vision de femmes. Peu nombreuses étaient les femmes. Le travail, c'était elles avaient, à part dans la halle aux poissons, elles avaient un rôle qui était tout à fait médiocre. C'est elles qui plumaient les volailles dans les sous-sols, c'est elles qui tuaient les volailles dans les sous-sols, ou bien donc c'est elles qui faisaient la soupe, donc dans des professions traditionnelles, si vous voulez. Mais jamais les femmes n'étaient grossistes, et d'ailleurs même à Rungis, les femmes ne sont pas grossistes, c'est un métier d'homme. on vous répond que c'est un métier d'homme, si vous voulez. Et donc, vous avez ici une image de la femme très présente. Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est quand même la continuité de ce que l'on appelait les dames de la halle, vous savez, gouailleuses, qui se permettaient d'aborder les nobles et de se moquer d'elles. Donc, elles occupaient une place tout à fait privilégiée dans la halle. Alors, par rapport au fonctionnement du marché dont je vous ai parlé, dont je me suis interrompu là-dessus, la photo du haut, s'il vous plaît, vous voyez que on arrivait vers 4-5 heures du matin à toute une foule qui, de professions différentes qui se regroupaient, et l'ensemble des trottoirs, l'ensemble des chaussées étaient encombrés de marchandises, et on estime, je ne vous parle pas des charrettes, des animaux de bas, etc., et on estime que 50 000 à 60 000 personnes se rendaient quotidiennement aux halles au moment du marché. Donc le marché débordé, bien évidemment, était, alors qu'au départ il était cantonné dans les halles, très vite il a débordé, et dès la fin du 19e siècle, il n'était plus suffisant d'ailleurs pour satisfaire à l'approvisionnement parisien. Dans son extension maximum, il allait du boulevard Sébastopol au quai de la Seine jusqu'au Grand Boulevard. Et donc à partir de là, on avait une sorte d'œdème quotidien qui rendait bouffi le centre de Paris, qui paralysait l'ensemble de Paris, ce qui fait que finalement, vous voyez les nuisances que ça pouvait entraîner. Pire que ça, si je peux dire, c'est que finalement, sur le plan économique, le marché des halles ne remplissait plus le rôle économique qui était censé être le sien, c'est-à-dire faire rencontrer l'offre et la demande de façon à bâtir un prix de gros qui puisse servir de référence à un prix de détail. Et donc là, on avait une sorte d'anarchie permanente, de difficulté de circulation, de multiplication des intermédiaires, donc de rallongement du circuit de distribution, donc d'inflation des prix. Donc vous voyez, les prix n'étaient pas les mêmes entre le nord et le sud du marché. Et donc, finalement, une distorsion complète au niveau de l'activité économique. Alors, finalement, dans les années 55-60, les halles centrales demeuraient un très gros marché, très important, c'est certain, mais finalement perduraient dessus un certain nombre de comportements traditionnels, archaïques, incapables de répondre à l'innovation qui était en train de se mettre en place au niveau de l'approvisionnement et de la distribution, c'est-à-dire l'émergence de la grande distribution. Et donc finalement, après 100 ans de bons et loyaux services, eh ben, les halles centrales ne pouvaient plus satisfaire aux besoins d'une population qui avait plus que quintuplé. Et encore, prenons l'agglomération. En même temps, était-il logique de conserver dans l'hypercentre d'une des plus grandes métropoles mondiales un marché de gros? Donc il y avait une incohérence là totale. Et donc finalement, le transfert des halles s'est posé de façon beaucoup plus ferme. Figurez-vous qu'on parlait depuis François Ier de transférer les halles. Et donc à partir de là, à chaque fois, c'était l'ampleur du projet, c'était des blocages administratifs, c'était des intérêts privés, c'était des habitudes, c'était des événements politiques. À chaque fois, on remettait le projet jusque après la Deuxième Guerre mondiale, oui. Et c'est finalement dans les années 1950-53 que, véritablement, on a pris la décision. Et cette décision a été prise en s'appuyant sur la création d'un nouveau concept que l'on appelle les marchés d'intérêt national, sur lequel je reviendrai éventuellement dans la discussion si ça vous intéresse. Et donc, on a pris la décision de rejeter à l'extérieur de Paris ce marché, sans savoir très bien où on allait le mettre. Vous devinez que c'est le futur marché de Rungis. Mais on a décidé plus exactement de fragmenter la ventilation des halles. Une partie, essentiellement les produits fruits et légumes, irait à l'extérieur de Paris. Pour les produits carnés, eh ben, on allait les envoyer intramuros à la Villette. Parce qu'il existait un deuxième ventre, si vous voulez, le ventre des produits carnés qui était donc installé à la Villette. Et voyons un petit peu ce marché et ces abattoirs de la Villette. Vous voulez bien préparer pour pouvoir mettre celle-ci, s'il vous plaît. Donc, à l'extrême nord, à l'extrême nord-est, plus exactement, Paris, il existait un temple des produits carnés. Le métier de la viande, vous savez, ont toujours été particulier. C'est-à-dire que, compte tenu des nuisances qu'ils imposaient, on avait tendance à regrouper les métiers de les boucheries et les écorcheries, comme on disait à l'époque. Et leur localisation à Paris, c'était le Grand Châtelet, pour la bonne raison qu'ils pouvaient aller tuer immédiatement, ils avaient les carcasses sur les bords de Seine, au niveau du Grand Pont. Et cette corporation, si vous voulez, d'ailleurs, c'est pour cette corporation qu'on a bâti, comme on a bâti Saint-Eustache, on a bâti la Saint-Jacques de la boucherie, dont il reste aujourd'hui la Tour Saint-Jacques. Et vous voyez, par la magnificence de la tour, elle vous permet de mesurer un petit peu la puissance de ce que l'on appelait la grande boucherie de Paris à l'époque. Donc finalement, on tuait au bord de la Seine et le bétail traversait Paris et convergeait vers le Châtelet au niveau de la prison, si vous voulez. Et là encore, la toponymie permet d'avoir des traces, des jalons de tout ça, puisque finalement, vous avez l'impasse au Bœuf, la rue des Abreuvoirs, la rue Aubry-le-Boucher, par exemple, donc tout ce qui fait ce lien de mémoire, si vous voulez, avec cette période-là. Alors, les professions de boucher, finalement, bénéficiaient de nombreux privilèges, c'était une fonction héréditaire de père en fils. En contrepartie, elle avait un certain nombre d'obligations, et vous l'imaginez bien, des obligations pécuniaires. Pour quelle raison ? Eh bien, pour la bonne raison que c'était une profession extrêmement riche. Donc, étant riche, elle était surveillée et très encadrée. Et à partir de là, si vous voulez, compte tenu de l'augmentation du nombre de bouchers, compte tenu de la croissance de la population parisienne, on a vu le quartier de la boucherie commencer à être saturé. Et on a vu, là encore, le même phénomène que l'on a évoqué tout à l'heure pour les commerçants, on a vu des bouchers qui ont commencé à diffuser dans l'ensemble de l'agglomération. Et donc, à partir de là, vous l'imaginez bien, si les bouchers diffusent, les troupeaux de bétail diffusent de la même façon. Et donc, à partir de là, on a vu toute une série de nuisances apparaître autour de cette divagation des troupeaux, qui causait d'ailleurs énormément de problèmes, d'accidents. On en reparlera si vous le souhaitez. Mais voilà la confusion la plus totale dans laquelle on était au niveau de la profession. Alors, cette profession va quand même connaître un certain nombre de mésaventures, puisqu'elle va aider un certain nombre de rois de France, participer, si vous voulez, à la lutte entre les Armagnacs. Il va y avoir des conflits très sanglants. Et donc, elle va s'affaiblir. Et il va falloir attendre le milieu du XVe siècle pour voir cette profession reprendre un petit peu du poil de la bête, se réenrichir de nouveau et commencer véritablement, là encore, une deuxième jeunesse, si vous permettez. Alors, il y avait à cette époque-là un certain nombre de marchés. Il y avait deux grands marchés extérieurs de Paris, c'était le marché de Sceaux et le marché de Poissy, et il y avait quatre marchés aux bestiaux intramuros, la halle au Veau, la chapelle, Saint-Germain et le marché des Bernardins. Alors en ce qui concerne les abattoirs, eh ben, la situation était complètement floue. Parce que si au début les bouchers ont été abattre au bord de la Seine à Paris, très vite, comme ils avaient diffusé dans l'ensemble du territoire, de la ville, eh ben, ils se sont dispensés de suivre ces principes. Et à partir de là, on a des descriptions absolument horribles de ce qui se passait. On abattait dans la rue, on abattait dans les boucheries, et là aussi j'ai quelques citations si ça vous intéresse pour un petit peu plus tard. Et vous imaginez bien les conséquences que ça a pu avoir en ce qui concerne l'hygiène, en ce qui concerne les circulations. Alors pour remettre un peu d'ordre, toujours pareil, Napoléon Ier, là, prend un certain nombre de décisions autoritaires, il interdit les tueries et il oblige à aller abattre l'ensemble du bétail dans les abattoirs parisiens. C'était Montmartre, Ménilmontant, Villejuif, Roule et Grenelle. Il y avait également trois autres abattoirs qui étaient périphériques encore, Batignolles, Belleville et Lavillette. Et donc, à partir de là, il est bien évident qu'on regroupe l'abattage, mais le bétail continue à affluer vers ces abattoirs. Et donc, on a une divagation permanente encore du bétail, si bien que Haussmann arrivant sur ces entrefaites, vous imaginez que c'était insupportable dans le Paris de la modernité de l'époque. Et Haussmann propose donc non pas d'empêcher le bétail de rentrer dans Paris, parce qu'à l'époque, c'était tout à fait normal. On n'avait pas de camions, on ne pouvait pas les transporter. Donc, il était plus simple de laisser le bétail entrer dans Paris et de le tuer au moment où on allait, à l'endroit où on allait le consommer. Donc, Haussmann n'a pas du tout interdit ça. Il a simplement voulu que cette divagation du bétail ne se fasse pas dans l'ensemble de l'espace parisien, mais soit regroupée vers un certain nombre de lieux, et notamment ce que a suggéré Haussmann, c'est de créer un marché, et un abattoir à la Villette, puisqu'il en existait un, autant regrouper toutes les activités là-bas. Et finalement, le conseil municipal a refusé et on lui a demandé de créer deux abattoirs, un à la Villette et l'autre à Vaugirard. Donc vous voyez qu'il y a eu à ce moment-là une démarche pour essayer d'assainir un petit peu cette profession. Et bien, finalement, vous l'avez. Est-ce qu'il est affiché ? Oui. Très bien. Donc, la décision étant prise de construire, c'était en 1865, si vous voulez, que les travaux vont véritablement commencer. Et donc, vous avez donc là le plan. Oui, il est bien orienté. Donc, vous avez là le plan à la fois du marché au bétail et de la Villette. Donc, dans la partie nord, porte de la Villette, vous aviez les abattoirs avec 22 bâtiments, avec des tueries particulières. Et ensuite, au sud, porte de Pantin, vous aviez donc le marché avec les trois fameuses halles de l'école Maltard, donc qui ressemblent vraiment parfaitement à celles qui existaient aux halles. Alors, il faut bien imaginer que malgré tout, le bétail traversait à pied pour arriver donc à la Villette, et il venait, soit il rentrait directement, parce que vous voyez qu'il y a un faisceau ferré juste au bord des fortifs, donc soit il arrivait directement par train, ou bien il arrivait aux différentes grandes gares parisiennes et il allait à pied, donc il continuait à traverser pour arriver donc jusqu'aux abattoirs. Alors je passe assez vite parce que finalement ces installations ont fonctionné pendant plus de 50 ans. Je vous laisse deviner l'hygiène dans les années 1866 et les exigences d'hygiène dans les années 1930-1950. Donc vous voyez qu'il y avait quand même un certain problème qui se posait. Et finalement, le matériel frigorifique pour la viande a commencé à être introduit en 1920. Donc c'est vous dire un petit peu. Alors je ne vous parle pas de l'état de vétusté, de l'absence d'hygiène, et il fallait donc restructurer tout ça. Et donc le Conseil de Paris, vous voyez que c'est la même période, les années 1949-50, on a vu là pour les Halles, on le voit ici pour le marché de la Villette. Et bien, donc c'est en 1949 que le Conseil municipal décide de reconstruire la Villette sur place. Parce qu'on a toujours cette même préoccupation de limiter le transport des carcasses mortes, puisqu'on n'a pas de quoi véritablement les transporter. Et donc, à partir de là, on prend la décision, mais on avait pris la décision de reconstruire sur place un marché et un abattoir du même type. Seulement, là, la politique au niveau national avait changé et on avait créé ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les fameux marchés d'intérêt national. Et donc, en créant les fameux marchés d'intérêt national, il est bien évident que l'État a voulu que ce nouveau marché fasse partie des marchés d'intérêt national. Alors là, on changeait radicalement les règles du jeu. Pourquoi ? Parce que c'était un projet d'abord municipal. Ça devient un projet national. On voulait simplement reconstruire un marché et un abattoir. On a fait une œuvre prestigieuse, extrêmement sophistiquée sur le plan de la technique, avec un abattage industriel. Alors bon, l'État imposant ça, le conseil municipal a bien été obligé de suivre. Et très rapidement, pour vous passer les épisodes, on a lancé un concours. Ce concours a donné un certain nombre de résultats qui ne satisfaisaient pas le conseil municipal. Ils ont donc pris dans chacun des projets ce qui les intéressait. Ils ont mélangé un petit peu tout ça et ils ont élaboré leur même projet. Donc vous voyez un travail de bricolage, pardonnez-moi l'expression, un travail de bricolage sans aucune analyse, réflexion globale sur comment intégrer, faire fonctionner et intégrer ce marché. Eh bien, finalement, les conséquences, vous les imaginez, elles sont doubles. Première conséquence, c'est un très grand désordre dans l'organisation des travaux. Très simplement, on avait prévu une salle des ventes d'une certaine taille, il a fallu la tripler. Si vous la triplez, il faut de la place. On avait prévu des bâtiments de stabulation, il a fallu les tripler. Il fallait de la place. On n'en avait pas, on n'avait que 55 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a construit en hauteur. Et comme on construisait en hauteur, bon, eh ben, il est bien évident qu'il faut des fondations différentes, plus chères, donc un coût supplémentaire. Mais pire, c'était des bâtiments de stabulation. Quand on a demandé au bétail de monter dans 4 étages par les rampes, elles n'ont pas voulu le faire, vous l'imaginez bien. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On leur a fait un ascenseur. Et quand on a fait un ascenseur, imaginez le bétail devait rentrer à l'envers pour pouvoir sortir à l'endroit, vous imaginez un petit peu la situation, quelle a été la conséquence ? Le stress. Quelle a été la conséquence du stress ? Les toxines. Quelle a été la conséquence des toxines ? La possibilité de consommer la viande. Donc vous voyez, cette gabegie dans lequel on est rentré par la réorganisation d'un projet que l'on n'avait véritablement pas mesuré et constitué de briques et de brocs. Donc, et ça, je pourrais vous en citer plusieurs exemples de ce type. Donc finalement, première conséquence, c'est ce grand désordre, cette anarchie dans l'exécution des travaux. Deuxième conséquence, ça a été un dérapage financier qui a fait dire le plus grand scandale de la Ve République. Je n'insiste pas, je vous donnerai simplement deux chiffres. Le projet initial, municipal, 174 millions de nouveaux francs. À l'arrêt des travaux, 1 milliard 200 millions, compte non tenu des frais financiers. Donc, vous voyez très bien ce dérapage complet dans lequel on est arrivé. On est dans les années 70, 30 ans. Donc, c'est quand même pas... on n'est plus aux anciennes halles. Donc, finalement, c'est vrai qu'il y avait un taux d'inflation relativement important. Mais le taux d'inflation, il aurait transformé les 174 millions en 210, 220 millions. Simplement, deuxièmement, il y a eu un relèvement des taux de financement de l'État qui a doublé carrément ses prêts bonifiés entre 1,5 et 3 %. Mais la plus grande dérive, c'est que c'est le projet en lui-même. C'est le projet. Et la contrainte du classement mine, c'est-à-dire surtout d'avoir un abattage industriel. Alors, finalement, ce qui s'est passé très rapidement, c'est un déficit chronique. Et ce déficit chronique devait être partagé entre la ville de Paris et l'État. L'État, tous les ans, rajoutait jusqu'en 1969, où la ville de Paris a dit « moi, je ne joue plus ». Et à partir de là, la ville de Paris a refusé de payer les sommes supplémentaires que l'État lui demandait. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle considérait qu'elle n'avait aucune part de responsabilité. C'est l'État qui avait pris la décision fondamentale de créer ce mine et donc ses contraintes supplémentaires par rapport aux mines. C'est l'État qui avait choisi les contraintes techniques, notamment par rapport à l'abattage. C'est l'État qui suivait le dossier, qui suivait l'aménagement. Et donc, à partir de là, c'est l'État qui faisait le contrôle financier. Donc, la dérive avait eu lieu. La ville de Paris a décidé de se retirer. Elle s'est retirée grande dame, si je peux dire, en donnant gratuitement l'ensemble des 5500 actions qu'elle possédait. Et elle a surtout donné le terrain, qui valait plus cher que ce qu'on lui demandait. Mais au moins, elle est sortie complètement du jeu. Et à partir de là, vous imaginez bien que ce marché et cet abattoir n'ont jamais véritablement marché. Quand le marché a commencé, c'était en 1967, les chaînes d'abattage n'étaient pas prêtes. Donc à partir de là, il a fallu 2 ans, 1 an et demi pour que les chaînes d'abattage entrent en vigueur. Et donc à partir de là, l'État malgré tout finançait. Et l'État à son tour, en 1970, a décidé d'abandonner. Et finalement, on a décidé l'arrêt des travaux. Et que faire de ce marché de produits carnés ? Eh bien, il y avait une solution pour trouver. C'est Rungis. Et donc, on a hésité encore, parce qu'on a dit, c'était en 1970, on a dit, les produits carnés des Halles iront à Rungis, les produits carnés de la Villette resteront à la Villette. Alors qu'au départ, toute la philosophie, c'était de faire un marché unique des produits carnés, et là, on va à contresens en donnant une dichotomie, si vous voulez, de cette activité. Mais très vite, l'État s'est rendu compte que c'était complètement irréaliste. Et en 1972, elle prend la décision que l'ensemble des produits carnés des Halles et de la Villette iraient rejoindre Rungis. Alors, venons-en maintenant, si vous voulez, à mon dernier point, qui est Rungis. Je ne reviens pas sur le contexte général de création des marchés. Oh, pardon, j'ai oublié 2 petites illustrations qui vont vous permettre... vous voulez bien montrer la première et la seconde. Là, vous avez le passage de l'octroi pour que les bêtes payent donc une redevance. Et en dessous, vous avez ce que vous reconnaissez, c'est-à-dire la halle centrale. Vous avez donc l'entrée du marché de la Villette avec la fontaine au lion de Nubie dans lequel le bétail pouvait s'approvisionner. Et vous voulez bien montrer l'abattoir ? Vous avez ici, donc, côté porte de la Villette, l'abattoir, avec les différents bâtiments, et une photo qui montre bien l'atmosphère qui régnait. Chacun de ces bâtiments était une tuerie, si vous voulez. Hein. Donc, vous avez ici la représentation. Alors, venons-en maintenant, si vous voulez bien, pour terminer, à Rungis. Donc, vous l'avez compris, il fallait expulser de Paris, à la fois le marché de gros central et le marché alimentaire, pour créer donc ce fameux nouveau ventre de Paris, qui est le marché actuel, si vous voulez. En réalité, vous l'avez bien compris, je pense, il ne s'agissait pas seulement de changer d'échelle. Ce n'était pas simplement passer d'une population de 2 millions d'habitants à l'ensemble de l'agglomération, 20 millions d'habitants, puisqu'il y a une redistribution des produits. Il fallait concevoir un marché moderne, capable justement de gérer à la fois la technique et les distributions, et répondre aux besoins de la distribution moderne. Donc c'était à la fois une opération d'urbanisme, mais aussi une opération économique. Et c'est finalement ce registre que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Il est situé donc hors les murs. Je vous le montre pour que vous ayez une vue complète. J'espère que une vue oblique que vous avez de Rungis ici. Donc, il est situé seulement à 7 km de la porte d'Orléans, à 2 km d'Orly, et il est relié au rail et à la route, vous le voyez. Imaginez que les édiles parisiens ont refusé que ces marchés sortent de l'agglomération. Et on a donc été obligé de mettre en place, vous avez donc exactement la même vue, mais je vous ai fait une carte pour que vous puissiez vous rendre compte, les édiles parisiens et les professionnels d'ailleurs ne croyaient pas du tout à la création de Rungis. On leur avait monté un certain nombre d'histoires avec la Villette, on a vu ce que ça allait donner, nous on ne va pas à Rungis. Donc les édiles ne voulaient pas lâcher Rungis, puisque ça rapportait quand même, ne voulaient pas lâcher les grossistes des Halles, ça rapportait quand même 2 milliards de francs par an. Ça entraîner des nuisances, mais ça a apporté un certain nombre de retombées. Et finalement, il a fallu obliger à la fois tous les grossistes, à aller s'installer. Et vous allez voir qu'on retrouve les périmètres de protection. On a donc créé deux types de périmètres, que vous voyez ici, dans la partie en bas à gauche. Un périmètre dit positif, dans lequel était exclu, interdit, toute activité de commerce de gros. Et un périmètre, donc ça veut dire que tous les commerçants de gros qui étaient installés étaient obligés de partir où ils veulent. Mais on leur proposait de les accueillir à Rungis. Ou bien ils sortaient à l'extérieur du périmètre. Et un deuxième périmètre, qu'on appelle le périmètre négatif, que vous voyez à l'intérieur de la limite verte, dans lequel toute activité de commerce de gros était gelée. Vous imaginez bien qu'une mesure comme celle-là, c'est-à-dire le périmètre positif, le périmètre négatif a existé partout. Le périmètre positif, c'est-à-dire une exclusion de l'activité, cette exclusion de l'activité coûte cher. Elle coûte très cher parce qu'elle nécessite indemnisation. Et elle n'a été utilisée en France qu'en deux autres endroits, à Bordeaux et à Strasbourg. Donc vous voyez véritablement une politique volontariste pour mettre en place ce marché. En même temps, autre élément, c'est que ce marché a été conçu aux normes du confort en ce qui concerne les bâtiments, et surtout, il n'a pas été conçu tout seul. Le marché que vous voyez là fait 220 hectares, et il est complété par ce que l'on appelle des annexes, que vous voyez en haut. La totalité fait plus de 600 hectares. Et à partir de là, vous avez véritablement un pôle agroalimentaire extrêmement moderne et dynamique dans cette banlieue sud de Paris, qui a d'ailleurs servi de pôle restructurateur à la banlieue tout autour. Ce qui est intéressant de noter dans la carte que vous avez là, c'est que, premièrement, c'est un marché, vous le voyez, oblong, clos, et que ce marché présente une répartition géographique par secteur. Et regardez bien, il y a un petit appendice là. Vous le voyez, ce petit appendice orange, c'est là où on a mis les produits carnés, parce qu'ils n'étaient pas prévus au départ. Donc au départ, le marché était circulaire, et on a été obligé de grignoter sur les réserves foncières pour pouvoir recevoir ce qui n'était pas prévu, c'est-à-dire les produits carnés. Ce marché, donc, présente une répartition géographique, vous le voyez dans les couleurs, et vous avez, je vous les donne dans l'ordre d'intervention, les produits de la mer et d'eau douce, les produits carnés, ensuite vous avez un circuit de la restauration, on va dire, ensuite les produits laitiers, les fruits et légumes, gros bâtiments en vert, et ensuite, par ici, ce sont les plantes et les fleurs coupées, mais ça n'a pas empêché le maintien qu'est de la mégisserie et dans l'île, également d'un petit peu de présence de fleurs. Alors, finalement, très rapidement, parce que là, j'ai largement dépassé de 10 minutes le temps qui m'était imparti, et je vous prie de m'en excuser, mais finalement, faisons le bilan du transfert et voyons où on en est aujourd'hui. Le bilan du transfert, c'est que le déplacement des Halles et de la Villette sur le mine de Rungis ont été un succès considérable. C'est-à-dire que ça a véritablement redynamisé l'activité commerciale, ça a permis un assainissement du commerce de gros, puisque tous les intermédiaires ont disparu, et donc on a eu une transparence au niveau de l'activité économique. Seulement, donc un succès véritablement éclatant. Seulement, entre les années 1970 et aujourd'hui, il y a un certain nombre de changements qui se sont produits, sur lesquels je passerai très vite. Trois changements majeurs. Un premier changement en ce qui concerne la consommation. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tassement, on note, un tassement dans la consommation des produits alimentaires, notamment des produits frais. Avec tout un transfert vers des produits plus industrialisés. Et ça résulte d'une multitude de facteurs. C'est une perte de savoir-faire au niveau cuisine, c'est le travail de la femme, c'est la déstructuration des repas, c'est les ménages d'une personne. Et pourquoi je vous dis ça ? Ben parce que c'est donc des volumes de marchandises fraîches qui ne sont plus consommés et donc qui ne passent plus par le marché. Deuxième élément, c'est qu'on a toute une très forte demande de produits exotiques et de produits de contre-saison. Donc ce sont des produits importés qui passent par des importateurs qui n'ont plus de raison de passer par le marché. Donc vous voyez, deuxième perte de substance au niveau des marchés. Ça, c'est la première mutation. La deuxième mutation, on pourrait développer, bien évidemment. La deuxième mutation, c'est la mutation en ce qui concerne la production. Avec la mise en place d'une agriculture productiviste, dans ces années 1960, on a vu se créer de grandes entreprises, de grandes coopératives qui vont produire des volumes qu'elles peuvent commercialiser directement toutes seules. Elles n'ont plus besoin du marché. D'autant qu'il y a émergence de la grande distribution et qu'à partir de là, la distribution est toute prête à recevoir ses produits. Donc, deuxième mutation très importante. Troisième mutation, c'est la mutation de la distribution en elle-même, c'est-à-dire ce que Alain Metton appelle la révolution commerciale, c'est-à-dire la montée en puissance de la grande distribution. Et cette grande distribution va se développer, je dirais, en pénalisant doublement les marchés de gros, et notamment le marché de Rungis, qui est le premier. Il va la pénaliser doublement, à la fois en s'approvisionnement directement à la production, donc en court-circuitant le marché, qui va perdre un peu plus de sa substance, et deuxièmement, en concurrençant le petit commerce, et le petit commerce qui est l'élément de base d'approvisionnement le marché de Rungis. Et donc, à partir de là, laissez-moi encore trois petites minutes, à partir de là, il y a eu un changement, ou plus exactement, un enrichissement de la fonction de Rungis. C'est-à-dire que Rungis, tout en conservant ses fonctions traditionnelles, est devenu véritablement une plateforme logistique, une plateforme logistique alimentaire multimodale, c'est-à-dire qu'elle a développé les services à la clientèle pour avoir bien évidemment une plus-value extrêmement importante. Et à partir de là, aujourd'hui, le grossiste n'est plus ce que l'on a vu, plus du tout. Aujourd'hui, le grossiste, il est acheteur, il est gestionnaire d'entrepôt, il est logisticien, il est prestataire de services, il est gestionnaire de froid, il est transformateur de produits, il est conditionneur de produits. Ça veut dire que, finalement, aujourd'hui, on a une diversification de l'activité qui fait qu'il est apte à répondre à l'ensemble de la demande en matière alimentaire et non plus le simple marché de gros, comme on l'a vu précédemment. Juste une dernière transparent pour vous montrer l'intérieur des différents pavillons. Aujourd'hui, Rungis, c'est le premier marché de gros de produits frais au monde. C'est nulle part ailleurs, il existe une structure et une organisation de ce type. Alors, permettez-moi maintenant de conclure. C'est qu'au terme de ces 850 ans d'histoire que l'on a parcouru ensemble, il y a deux aspects que je voudrais retenir par rapport à Paris, bien évidemment. Premièrement, c'est que le départ, l'expulsion des anciennes halles et de la Villette ont rendu disponibles des superficies énormes au niveau du foncier parisien, qui en manque, bien évidemment. Et donc, ce départ a permis la création d'équipements structurants qui font aujourd'hui partie du paysage parisien. C'est le Forum des Halles et c'est bien évidemment la Cité des Sciences. Et il y a un deuxième élément tout à fait intéressant, c'est que quand il y avait le marché et les abattoirs de la Villette, les études montraient que Paris tournait le dos à la Villette. C'est-à-dire que le quartier était considéré pas vraiment, c'était la cité du sang. Donc on lui tournait le dos. Et ben avec le développement de ce pôle touristique et culturel qu'est la cité du science, des sciences, il y a eu une réintégration de cet espace dans l'espace parisien véritablement. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est que ces deux marchés ont été relayés par un seul marché polyvalent, le marché de Rungis. Et que ce marché de Rungis a pu trouver les faveurs du petit commerce et de la grande distribution. Enfin, dernier point, c'est que la population ne perçoit ces équilibres véritablement que dans l'affrontement de ces deux modes de commercialisation. Et dans cette compétition, Paris Intramuros est encore un espace protégé. Vous avez vu le nombre de fois où je l'ai répété. Paris est volontairement sous-équipé en grande surface. Et à partir de là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une stratégie actuellement d'encerclement de Paris de la part de la grande distribution au pied même du périphérique avec Auchan-Bagnolet, avec Bercy-Carrefour, Bercy-Ivry. Donc on a véritablement une stratégie qui vient compenser ce problème de domination du petit commerce qui s'approvisionne donc à Rungis. On est vraiment dans la suite logique de ce que je vous disais et on a donc cette dimension tout à fait stratégique actuelle. Et qui marche, puisque, paraît-il, 47% des Parisiens vont s'y approvisionner. Il n'en demeure pas moins que Paris, dans Paris Intramuros, ce sont les marchés, ce sont les commerces alimentaires traditionnels qui se fournissent presque exclusivement sur le marché d'intérêt national de Rungis, qui assurent l'essentiel de l'approvisionnement des Parisiens en produits faits. Et donc, à partir de là, Rungis, aujourd'hui, si vous le comparez par rapport aux anciennes halles, non seulement participe à l'approvisionnement, mais il participe également au bon fonctionnement et à l'animation de l'espace urbain. C'est-à-dire que par l'intermédiaire du petit commerce, le mythe de Rungis contribue directement à l'aménagement, par le biais de l'animation et du commerce, il contribue donc directement à l'animation de notre capitale. Je vous remercie beaucoup.
Merci. Je voudrais poser une question qui n'est pas tout à fait dans le sujet, mais qui est notamment dans le sujet, par la bande. Des anciens bâtiments de la Villette, est-ce qu'il en reste qui constitue la Cité des Sciences ?
Bien sûr, le bâtiment en lui-même. Le bâtiment en lui-même,
À part la grande halle, je veux dire.
Non, je parle côté abattoir. Le bâtiment actuel est un bâtiment qui est une réhabilitation d'un des bâtiments de l'abattoir de l'époque, pour les bâtiments de stabulation dont je vous ai parlé. En réalité, pour compléter, parce que c'est exactement ça, et d'ailleurs, vous voyez, il a été creusé, le fossé qui est à l'intérieur, vous le voyez tout autour, ce fossé, a permis de gagner un niveau et d'avoir un puits de lumière naturel, alors que c'était un sous-sol à l'origine. C'était ce bâtiment-là dont monsieur parle, et l'abattoir lui-même, l'abattoir moderne. Qu'est-ce qu'on voulait faire ? Donc, on voulait que le bétail, c'était ce qu'on appelle les abattoirs par gravité. C'est-à-dire qu'il fallait que le bétail monte au quatrième étage, il était tué au quatrième étage, on l'accrochait sous des rails, et par la gravité, il descendait. Et à chaque niveau, il y avait des bouchers qui auraient traité la carcasse. C'est ce bâtiment-là.
Quel futur prévoyez-vous pour Rungis, justement, du fait de l'encerclement de toutes ces grandes surfaces et cette consommation de masse ?
Je crois qu'il n'y a pas de conflit entre les deux. Je crois que, quelque part, et c'est en train de se confirmer de plus en plus, la grande distribution est en train de prendre le relais du marché de gros, si vous voulez. Je crois qu'il ne faut plus voir ça comme on le voyait dans les années 1970, d'affrontement entre le marché de gros et la grande distribution. La grande distribution, jusqu'à une période relativement récente, si vous me donnez deux petites minutes, elle tournait le dos au marché de gros. Elle venait faire simplement ce qu'on appelle du réassortiment, mais véritablement, elle s'approvisionnait en direct. Et donc, à partir de là, il s'est posé la montée de la crise économique a fait que la grande distribution a élargi son assise au niveau de la clientèle. C'est-à-dire que, traditionnellement, on allait dans la grande distribution pour trouver les bas prix et avoir justement une économie au niveau de ses achats. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une clientèle essentiellement populaire. Or, avec la crise économique à partir des années 1980-81, on a vu l'ensemble de la population, et notamment les cadres, aller dans la grande distribution. Et si vous l'avez fait attention, il y a eu une série de publicités, je ne citerai pas le nom, qui vous montrait une affiche avec un produit, une bière, et puis une autre affiche avec 25 bières. Or, la diversité n'était pas le fort de la grande distribution. Et à partir de là, la grande distribution, elle s'est tournée vers cette clientèle de cadres. Mais la clientèle de cadres n'avait pas la même demande ni les mêmes exigences que la clientèle populaire. Donc, à partir de là, je suis en plein dans votre réponse, j'y arrive. À partir de là, la grande distribution, qui se fournissait essentiellement de façon massive, standardisée à la production, arrivait avec une catégorie de tomates qui n'intéressait pas absolument la clientèle de cadres. Donc, à partir de là, pour elle, l'achat directement sur la production devient moins intéressant, pour la bonne raison qu'elle n'a plus besoin de volume considérable dans un produit, mais qu'elle a besoin d'une diversification de ses produits. Et ça, c'est valable pour tous les produits. Vous ne trouvez plus aujourd'hui une tomate, mais 5-6 tomates. Vous ne trouvez plus une pêche, mais 5-6 pêches. Une pomme, mais une dizaine de variétés de pommes. Et ça vient des années 1980. Donc, et je reviens à ce que vous me disiez, à partir de là, la grande distribution ne peut plus se permettre d'avoir des relais partout. Donc, elle a besoin de petites quantités sur des produits ciblés. Et à partir de là, pourquoi ne pas travailler avec le marché de gros, notamment quand ce sont des marchés d'intérêt national modernes comme le sont, comme les Rungis, pour ne parler que de lui. Donc, l'adaptation de ces marchés de gros, comme j'ai essayé de vous le présenter, à la fois au niveau de plateformes multimodales, de propositions de services, a fait qu'on voit aujourd'hui la grande distribution venir vers les marchés de gros et utiliser ses compétences pour des services dont elle a besoin. Par exemple, la découpe d'un des grands distributeurs de viande se fait à Rungis. Donc vous voyez, il ne faut plus voir ça comme une opposition. Il y a véritablement, je crois maintenant, un partenariat qui est en train de se développer, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout inquiet, pour mettre un point à ma réponse, je ne suis pas du tout inquiet par rapport au devenir du marché de gros de Rungis. Et des autres marchés de gros d'ailleurs en France. À condition qu'ils sachent s'adapter. Et c'est ce qu'ils savent faire actuellement.
Une question idiote, mais ça me taraude depuis tout à l'heure. Quand j'ai vu le menu à base des locataires du Jardin des Plantes, oui. Le dernier plat était de l'antilope aux truffes. Dans la situation où était Paris à l'époque, quelle secrète voie, quel chemin périlleux parcouraient ces truffes pour arriver dans les...
Moi, je vous dirais, est-ce que c'était vraiment de la truffe? Je ne sais pas, madame. Très sincèrement, je ne sais pas. Mais la question qui me vient tout de suite, c'est celle-là. Est-ce que c'était vraiment de la truffe? Vraiment, on ne pouvait pas rentrer. Donc, elle aurait dû venir d'une production tout à fait locale. Et à ma connaissance, il n'y avait pas de production truffière dans Paris intramuros. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis désolé de vous décevoir.
Merci, monsieur Chemla.